Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, 7e partie, dialogue 15, 16 et 17.
Quoique nous ayons parcouru un cercle très vaste et que vous ayez déjà presque tout organisé, je ne dois pas vous cacher qu'il vous reste encore beaucoup à faire pour me rassurer complètement sur la durée de votre pouvoir. La chose du monde qui m'étonne le plus, c'est que vous lui ayez donné pour base le suffrage populaire, c'est-à-dire l'élément de sa nature le plus inconsistant que je connaisse. Entendons-nous bien, je vous prie. Vous m'avez dit que vous étiez roi.
Oui, roi.
À vie ou héréditaire?
Je suis roi comme on est roi dans tous les royaumes du monde. Roi héréditaire avec une descendance appelée à me succéder de mal en mal, par ordre de progéniture à l'exception perpétuelle des femmes.
Vous n'êtes pas galant.
Ah, permettez, je m'inspire des traditions de la monarchie franque et salienne.
Vous m'expliquerez sans doute comment vous croyez pouvoir faire de l'hérédité avec le suffrage démocratique des États-Unis.
Mais oui.
Comment? Vous espérez, avec ce principe, lier la volonté des générations futures?
Oui.
Ce que je voudrais voir, quant à présent, c'est la manière dont vous vous en tirerez avec ce suffrage quand il s'agira de l'appliquer à la nomination des officiers publics.
Quels officiers publics? Vous savez bien que dans les États monarchiques, c'est le gouvernement qui nomme les fonctionnaires de tous les rangs.
Cela dépend de quels fonctionnaires. Ceux qui sont préposés à l'administration des communes sont, en général, nommés par les habitants, même sous les gouvernements monarchiques.
On changera cela par une loi. Ils seront nommés à l'avenir par le gouvernement.
Et les représentants de la nation, est-ce vous aussi qui les nommez?
Vous savez bien que cela n'est pas possible.
Alors je vous plains, car si vous abandonnez le suffrage à lui-même, si vous ne trouvez pas ici quelque nouvelle combinaison, l'assemblée des représentants du peuple ne tardera pas, sous l'influence des partis, à se remplir de députés hostiles à votre pouvoir.
Aussi ne comptais-je pas le moins du monde abandonner le suffrage à lui-même.
Je m'y attendais. Mais quelle combinaison adopterez-vous?
Le premier point est de lier envers le gouvernement ceux qui veulent représenter le pays. Alors j'imposerai au candidat la solennité du serment. Il n'est pas question ici d'un serment prêté à la nation, comme l'entendaient vos révolutionnaires de 89. Je veux un serment de fidélité prêté au prince lui-même et à sa constitution.
Mais puisqu'en politique vous ne craignez pas de violer les vôtres, comment pouvez-vous espérer qu'on se montrera, sur ce point, plus scrupuleux que vous-même?
Je compte peu sur la conscience politique des hommes, je compte sur la puissance de l'opinion. Personne n'osera s'avilir devant elle en manquant ouvertement à la foi jurée. On l'osera d'autant moins que le serment que j'imposerai précédera l'élection au lieu de la suivre, et qu'on sera sans excuse de venir rechercher le suffrage dans ces conditions, quand on ne sera pas à l'avance décidé à me servir. Il faut maintenant donner au gouvernement le moyen de résister à l'influence de l'opposition, d'empêcher qu'elle ne fasse déserter les rangs de ceux qui veulent le défendre. Et au moment des élections, les partis ont pour habitude de proclamer leurs candidats et de les poser en face du gouvernement. Eh bien, je ferai comme eux, j'aurai des candidats déclarés, et je les poserai en face des partis.
Si vous n'étiez pas tout puissant, le moyen serait détestable, car en offrant ouvertement le combat, vous provoquez les coups.
Mais j'entends que les agents de mon gouvernement, depuis le premier jusqu'au dernier, s'emploient à faire triompher mes candidats.
Cela va de soi, c'est la conséquence.
Et tout est de la plus grande importance en cette matière. Les lois qui établissent le suffrage sont fondamentales. La manière dont le suffrage est donné est fondamentale. La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage est fondamentale. N'est-ce pas vous qui avez dit cela?
Je ne reconnais pas toujours mon langage quand il passe par votre bouche. Il me semble que les paroles que vous citez s'appliquaient au gouvernement démocratique.
Sans doute, et vous avez déjà pu voir que ma politique essentielle était de m'appuyer sur le peuple, que, quoique je porte une couronne, mon but réel est déclaré et de le représenter. Dépositaire de tous les pouvoirs qu'il m'a délégués, c'est moi seul, en définitive, qui suis son véritable mandataire. Ce que je veux, il le veut, et ce que je fais, il le fait. En conséquence, il est indispensable que lors des élections, les factions ne puissent pas substituer leur influence à celle dont je suis la personnification armée. Aussi ai-je trouvé d'autres moyens encore de paralyser leurs efforts. Il faut que vous sachiez, par exemple, que la loi qui interdit les réunions s'appliquera naturellement à celles qui pourraient être formées en vue des élections. De cette manière, les partis ne pourront ni se concerter ni s'entendre.
Pourquoi mettez-vous toujours les partis en avant? Sous prétexte de leur imposer des entraves, n'est-ce pas aux électeurs eux-mêmes que vous les imposez? Les partis, en définitive, ne sont que des collections d'électeurs. Si les électeurs ne peuvent pas s'éclairer par des réunions, par des pourparlers, comment pourront-ils voter en connaissance de cause?
Oh, je vois que vous ignorez avec quel art infini, avec quelle astuce, les passions politiques déjouent les mesures prohibitives. Ne vous embarrassez pas des électeurs, ceux qui seront animés de bonnes intentions sauront toujours pour qui voter. D'ailleurs, j'userai de tolérance. Non seulement je n'interdirai pas les réunions qui seront formées dans l'intérêt de mes candidats, mais j'irai jusqu'à fermer les yeux sur les agissements de quelques candidatures populaires qui s'agiteront bruyamment dans la liberté. Seulement, il est bon de vous dire que ceux qui crieront le plus fort seront des hommes à moi.
Et comment réglez-vous le suffrage?
D'abord, en ce qui touche les campagnes, je ne veux pas que les électeurs aillent voter dans les centres d'agglomération où ils pourraient se trouver en contact avec l'esprit d'opposition des bourgs ou des villes, et de là à recevoir la consigne qui viendrait de la capitale. Je veux qu'on vote par commune. Le résultat de cette combinaison, en apparence si simple, sera néanmoins considérable.
Il est facile de le comprendre. Vous obligez le vote des campagnes à se diviser entre des notoriétés insignifiantes, ou à se reporter, à défaut de non connus, sur les candidats désignés par votre gouvernement. Je serais bien surpris si, dans ce système, il éclot beaucoup de capacités ou de talents.
L'ordre public a besoin moins d'hommes de talent que d'hommes dévoués au gouvernement. La grande capacité siège sur le trône et parmi ceux qui l'entourent, ailleurs elle est inutile. Elle est presque nuisible même, car elle ne peut s'exercer que contre le pouvoir.
Vos aphorismes tranchent comme l'épée. Je n'ai point d'argument à vous opposer. Reprenez donc, je vous prie, la suite de votre règlement électoral.
Par les raisons que je viens de vous déduire, je ne veux pas non plus de scrutin de liste qui fausse l'élection et qui permette la coalition d'hommes et de principes. Je diviserai d'ailleurs les collèges électoraux en un certain nombre de circonscriptions administratives dans lesquelles il n'y aura place que pour l'élection d'un seul député et où, par suite, chaque électeur ne pourra porter qu'un nom sur son bulletin de vote. Il faut de plus avoir la possibilité de neutraliser l'opposition dans les circonscriptions où elle se ferait trop vivement sentir. Ainsi, je suppose que dans des élections antérieures, une circonscription se soit fait remarquer par la majorité de ses votes hostiles ou que l'on ait lieu de prévoir qu'elle se prononcera contre les candidats du gouvernement. Rien n'est plus facile que d'y remédier si cette circonscription n'a qu'un petit chiffre de population. On la rattache à une circonscription voisine ou éloignée, mais beaucoup plus étendue dans laquelle ses voix soient noyées et où son esprit politique se perd. Si la circonscription hostile, au contraire, a un chiffre de population important, on la fractionne en plusieurs parties que l'on annexe aux circonscriptions voisines dans lesquelles elle s'annihile complètement. Je passe, vous le comprenez bien, sur une foule de points de détail qui ne sont que les accessoires de l'ensemble. Ainsi, je divise au besoin les collèges en sections de collèges pour donner, quand il le faudra, plus de prise à l'action de l'administration. Et je fais présider les collèges et les sections de collèges par les officiers municipaux dont la nomination dépend du gouvernement.
Je remarque avec une certaine surprise que vous n'usez pas ici d'une mesure que vous indiquiez dans le temps à Léon X et qui consiste dans la substitution des billets de suffrage par les scrutateurs après le vote.
Ce serait peut-être difficile aujourd'hui, et je crois que l'on se doit user de ce moyen qu'avec la plus grande prudence. Un gouvernement habile a d'ailleurs tant d'autres ressources. Sans acheter directement le suffrage, c'est-à-dire à denier découvert, rien ne lui sera plus facile que de faire voter les populations à son gré au moyen de concessions administratives, en promettant ici un port, là un marché, plus loin une route, un canal, et à l'inverse en ne faisant rien pour les villes et les bourgs où le vote sera hostile.
Je n'ai rien à reprocher à la profondeur de ces combinaisons. Mais ne craignez-vous pas qu'on ne dise que tantôt vous corrompez et tantôt vous opprimez le suffrage populaire? Ne craignez-vous pas de compromettre votre pouvoir dans des luttes où il se trouvera toujours si directement engagé? Le moindre succès qu'on remportera sur vos candidats sera une éclatante victoire qui mettra votre gouvernement en échec. Ce qui ne cesse de m'inquiéter pour vous, c'est que je vous vois toujours obligé de réussir en toute chose sous peine d'un désastre.
Mais vous tenez le langage de la peur, rassurez-vous. Au point où j'en suis arrivé, j'ai réussi dans tant de choses que je ne puis pas périr par les infiniment petits. Le grain de sable de Bossuet n'est pas fait pour les véritables hommes politiques. Je suis si avancé dans ma carrière que je pourrais sans danger braver même des orages. Mais que signifient donc les infimes embarras d'administration dont vous parlez? Croyez-vous que j'ai la prétention d'être parfait? Ne sais-je pas bien qu'il se commettra plus d'une faute autour de moi? Non, sans doute, oui, je ne pourrais pas faire qu'il y ait quelque pillage, quelque scandale. Et cela empêchera-t-il que l'ensemble des affaires ne marche et ne marche bien? L'essentiel est bien moins de ne commettre aucune faute que d'en supporter la responsabilité avec une attitude d'énergie qui impose aux détracteurs. Quand même l'opposition parviendrait à introduire dans ma chambre quelques déclamateurs, que m'importerait? Je ne suis pas de ceux qui veulent compter sans les nécessités de leur temps. Un de mes grands principes est d'opposer les semblables. De même que j'use la presse par la presse, j'userai la tribune par la tribune. J'aurais autant qu'il en faudrait d'hommes dressés à la parole et capables de parler plusieurs heures sans s'arrêter. L'essentiel est d'avoir une majorité compacte et un président dont on soit sûr. Il y a un art particulier de conduire les débats et d'enlever le vote. Aurais-je besoin d'ailleurs des artifices de la stratégie parlementaire? Les 19/20 de la Chambre seraient des hommes à moi, qui voteraient sur une consigne, tandis que je ferais mouvoir les fils d'une opposition tactice et clandestinement embauchée. Et après cela, qu'on vienne faire de beaux discours, ils entreront dans les oreilles de mes députés comme le ventre dans le trou d'une serrure. Voulez-vous maintenant que je vous parle de mon Sénat?
Non, je sais par Caligula ce que ce peut être. Un des points saillants de votre politique, c'est l'anéantissement des partis et la destruction des forces collectives. Vous n'avez point failli à ce programme. Cependant, je vois encore autour de vous des choses auxquelles vous n'avez point touché. Ainsi, vous n'avez encore porté la main ni sur le clergé, ni sur l'université, ni sur le barreau, ni sur les milices nationales, ni sur les corporations commerciales. Il me semble cependant qu'il y a là plus d'un élément dangereux.
Je ne puis vous dire tout à la fois. Venons de suite au milice national, car je ne devrais plus avoir à m'en occuper, et leur dissolution était nécessairement un des premiers actes de mon pouvoir. L'organisation d'une garde citoyenne ne saurait se concilier avec l'existence d'une armée régulière, car les citoyens en armes pourraient à un moment donné se transformer en factieux. Ce point, cependant, n'est pas sans difficulté. La garde nationale est une institution inutile, mais elle porte un nom populaire. Dans les états militaires, elle flatte les instincts puérils de certaines classes bourgeoises, qui, par un travers assez ridicule, allient le goût des démonstrations guerrières aux habitudes commerciales. C'est là un préjugé inoffensif, il serait d'autant plus maladroit de le heurter que le prince ne doit jamais avoir l'air de séparer ses intérêts de ceux de la cité, qui croit trouver une garantie dans l'armement de ses habitants.
Mais puisque vous dissolvez cette milice...
Alors je la dissous pour la réorganiser sur d'autres bases. L'essentiel est de la mettre sous les ordres immédiats des agents de l'autorité civile et de lui ôter la prérogative de recruter ses chefs par la voie d'élection. C'est ce que je fais. Je ne l'organiserai d'ailleurs que dans les lieux où il conviendra et je me réserve le droit de la dissoudre de nouveau et de la rétablir sur d'autres bases encore, si les circonstances l'exigent. Mais je n'ai rien à vous dire de plus sur ce point. En ce qui concerne l'université, l'ordre des choses actuelles me satisfait à peu près. Vous n'ignorez pas, en effet, que ces grands corps d'enseignement ne sont plus organisés aujourd'hui comme ils l'étaient autrefois. Ils ont presque partout, m'assure-t-on, perdu leur autonomie et ne sont plus que des services publics à la charge de l'État. Or, ainsi que je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, là où est l'État, là est le prince. La direction morale des établissements publics est entre ses mains. Ce sont ses agents qui inspirent l'esprit de la jeunesse. Les chefs comme les membres des corps enseignants de tous les degrés sont nommés par le gouvernement. Ils y sont rattachés, ils en dépendent, cela suffit. S'il reste ça et là quelques traces d'organisation indépendante dans quelque école publique ou académique que ce soit, il est facile de la ramener au centre commun d'unité et de direction. C'est l'affaire d'un règlement ou même d'un simple arrêté ministériel. Je passe à tire-d'aile sur des détails qui ne peuvent pas appeler mes regards de plus près. Cependant, je ne dois pas abandonner ce sujet sans vous dire que je regarde comme très important de proscrire dans l'enseignement du droit les études de politique constitutionnelle.
Vous avez en effet d'assez bonnes raisons pour cela.
Mes raisons sont fort simples. Je ne veux pas qu'au sortir des écoles, les jeunes gens s'occupent de politique à tort et à travers, qu'à 18 ans, on se mêle de faire des constitutions comme on fait les tragédies. Un tel enseignement ne peut que fausser les idées de la jeunesse et l'initier prématurément à des matières qui dépassent la mesure de sa raison. C'est avec ces notions mal digérées et mal comprises qu'on prépare de faux hommes d'État, des utopistes dont les témérités d'esprit se traduisent plus tard par des témérités d'action. Il faut que les générations qui naissent sous mon règne soient élevées dans le respect des institutions établies, dans l'amour du prince. Aussi ferai-je un usage assez ingénieux du pouvoir de direction qui m'appartient sur l'enseignement. Je crois qu'en général, dans les écoles, on a un grand tort, c'est de négliger l'histoire contemporaine. Il est au moins aussi essentiel de connaître son temps que celui de Périclès. Je voudrais que l'histoire de mon règne fût enseignée, moi, vivant, dans les écoles. C'est ainsi qu'un prince nouveau entre dans le cœur d'une génération.
Ce serait, bien entendu, une apologie perpétuelle de tous vos actes.
Bon, il est évident que je ne me ferai pas dénigrer. L'autre moyen que j'emploierais aurait pour but de réagir contre l'enseignement libre que l'on ne peut pas directement proscrire. Les universités renferment des armées de professeurs dont on peut, en dehors des classes, utiliser les loisirs pour la propagation des bonnes doctrines. Je leur ferai ouvrir des cours libres dans toutes les villes importantes et je mobiliserai ainsi l'instruction et l'influence du gouvernement.
En d'autres termes, vous absorbez, vous confisquez à votre profit même les dernières lueurs d'une pensée indépendante.
Je ne confisque rien du tout.
Permettez-vous à d'autres professeurs que les vôtres de vulgariser la science par les mêmes moyens, et cela sans brevet, sans autorisation?
Quoi, voulez-vous donc que j'autorise des clubs?
Non, passez donc à un autre objet.
Parmi la multitude de mesures réglementaires que réclame le salut de mon gouvernement, vous avez appelé mon attention sur le barreau. C'est étendre l'action de ma main au-delà de ce qui est nécessaire pour le moment. Je touche ici d'ailleurs à des intérêts civils, et vous savez qu'en cette matière, ma règle de conduite est de m'abstenir autant que possible. Dans les États où le barreau est constitué en corporation, les justiciables regardent l'indépendance de cette institution comme une garantie inséparable du droit de la défense devant les tribunaux, qu'il s'agisse de leur honneur, de leur intérêt ou de leur vie. Il est bien grave d'intervenir ici, car l'opinion pourrait s'alarmer sur un cri que ne manquerait pas de jeter la corporation tout entière. Cependant, je n'ignore pas que cet ordre sera un foyer d'influence constamment hostiles à mon pouvoir. Cette profession, vous le savez mieux que moi, Montesquieu, développe des caractères froids et opiniâtres dans leurs principes, des esprits dont la tendance est de rechercher dans les actes du pouvoir l'élément de la légalité pure. L'avocat n'a pas au même degré que le magistrat le sens élevé des nécessités sociales. Il voit la loi de trop près et part des côtés trop petits pour en avoir le sentiment juste. tandis que le magistrat...
Épargnez l'apologie.
Oui, oui, car je n'oublie pas que je suis dans un descendant de ces grands magistrats qui soutinrent avec tant d'éclat en France le trône de la monarchie.
Et qui se montrèrent rarement faciles à l'enregistrement des édits, quand ils violaient la loi de l'État.
Et c'est ainsi qu'ils ont fini par renverser l'État lui-même. Je ne veux pas que mes cours de justice soient des parlements, et que les avocats, sous l'immunité de leur robe, y fassent de la politique. Le plus grand homme du siècle auquel votre patrie a eu l'honneur de donner le jour disait « Je veux que l'on puisse couper la langue à un avocat qui dit du mal du gouvernement ». Les mœurs modernes sont plus douces, je n'irai pas jusque-là. Au premier jour et dans les circonstances qui conviendront, je me bornerai à faire une chose bien simple. Je rendrai un décret qui, tout en respectant l'indépendance de la corporation, soumettra néanmoins les avocats à recevoir du souverain l'investiture de leur profession. Dans l'exposé des motifs de mon décret, il ne sera pas, je crois, bien difficile de démontrer aux justiciables qu'ils trouveront dans ce mode de nomination une garantie plus sérieuse que quand la corporation se recrute d'elle-même, c'est-à-dire avec des éléments nécessairement un peu confus.
Il n'est que trop vrai que l'on peut prêter aux mesures les plus détestables le langage de la raison. Mais voyons, qu'allez-vous faire maintenant à l'égard du clergé? Voilà une institution qui ne dépend de l'État que par un côté et qui relève d'une puissance spirituelle, dont le siège est d'ailleurs que chez vous. Je ne connais rien de plus dangereux pour votre pouvoir, je vous le déclare, que cette puissance qui parle au nom du ciel et dont les racines sont partout sur la terre. N'oubliez pas que la parole chrétienne est une parole de liberté. Sans doute, les lois de l'État ont établi une démarcation profonde entre l'autorité religieuse et l'autorité politique. Sans doute, la parole des ministres du culte ne se fera entendre qu'au nom de l'Évangile. Mais le spiritualisme divin qui s'en dégage est la pierre d'achoppement du matérialisme politique. C'est ce livre si humble et si doux qui a détruit à lui seul et l'Empire romain et le césarisme et sa puissance. Les nations franchement chrétiennes échapperont toujours au despotisme, car le christianisme élève la dignité de l'homme trop haut pour que le despotisme puisse l'atteindre, car il développe des forces morales sur lesquelles le pouvoir humain n'a pas de prise. Prenez garde aux prêtres, il ne dépend que de Dieu, et son influence est partout, dans le sanctuaire, dans la famille, dans l'école. Vous ne pouvez rien sur lui, sa hiérarchie n'est pas la vôtre, il obéit à une constitution qui ne se tranche ni par la loi ni par l'épée. Si vous régnez sur une nation catholique et que vous ayez le clergé pour ennemi, vous périrez tôt ou tard, quand bien même le peuple entier serait pour vous.
Je ne sais pas trop pourquoi il vous plaît de faire du prêtre un apôtre de liberté. Je n'ai jamais vu cela, ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes. J'ai toujours trouvé dans le sacerdoce un appui naturel du pouvoir absolu. Remarquez-le bien. Si dans l'intérêt de mon établissement, j'ai dû faire des concessions à l'esprit démocratique de mon époque, si j'ai pris le suffrage universel pour base de mon pouvoir, ce n'est qu'un artifice commandé par les temps. Mais je ne réclame pas moins le bénéfice du droit divin. Je n'en suis pas moins roi par la grâce de Dieu. À ce titre, le clergé doit donc me soutenir, car mes principes d'autorité sont conformes aux siens. Si cependant il se montrait factieux, s'il profitait de son influence pour faire une guerre sourde à mon gouvernement...
Eh bien ?
Vous qui parlez de l'influence du clergé, vous ignorez donc à quel point il a su se rendre impopulaire dans quelques États catholiques. En France, par exemple, le journalisme et la presse l'ont tellement perdu dans l'esprit des masses, ils ont tellement ruiné sa mission, que si je régnais dans son royaume, savez-vous bien ce que je pourrais faire ?
Quoi ?
Eh bien, je pourrais provoquer dans l'Église un schisme qui briserait tous les liens qui rattachent le clergé à la cour de Rome, car c'est là qu'est le nœud gordien. Je ferai tenir par ma presse, par mes publicistes, par mes hommes politiques, le langage que voici. Le christianisme est indépendant du catholicisme. Ce que le catholicisme défend, le christianisme le permet. L'indépendance du clergé et sa soumission à la cour de Rome sont des dogmes purement catholiques. Un tel ordre de choses est une menace perpétuelle contre la sûreté de l'État. Les fidèles du royaume ne doivent pas avoir pour chef spirituel un prince étranger. C'est laisser l'ordre intérieur à la discrétion d'une puissance qui peut être hostile à tout moment. Cette hiérarchie du Moyen-Âge, cette tutelle des peuples en enfance ne peut plus se concilier avec le génie viril de la civilisation moderne, avec ses lumières, avec son indépendance. Pourquoi aller chercher à Rome un directeur des consciences? Pourquoi le chef de l'autorité politique ne serait-il pas en même temps le chef de l'autorité religieuse? Pourquoi le souverain ne serait-il pas pontife? Tel est le langage que l'on pourrait faire tenir à la presse libérale surtout, et ce qu'il y a de très probable, c'est que la masse du peuple l'entendrait avec joie.
Si vous pouviez le croire, et si vous osiez tenter une semblable entreprise, vous apprendriez promptement et d'une manière à coup sûr terrible ce qu'est la puissance du catholicisme, même chez les nations où il paraît affaibli.
Le tenter, grand Dieu! Mais je demande pardon à genoux à notre divin maître d'avoir semé exposer cette doctrine sacrilège inspirée par la haine du catholicisme. Mais Dieu, qui a institué le pouvoir humain, ne lui défend pas de se garantir des entreprises du clergé, qui enfreint d'ailleurs les préceptes de l'Évangile quand il manque de subordination envers le prince. Je sais bien qu'il ne conspirera que par une influence insaisissable, mais je trouverai le moyen d'arrêter, même au sein de la cour de Rome, l'intention qui dirige l'influence.
Comment ?
Oh, il me suffirait d'indiquer du doigt au Saint-Siège l'état moral de mon peuple, frémissant sous le joug de l'Église, aspirant à le briser, capable de se démembrer à son tour du sein de l'unité catholique, de se jeter dans le schisme de l'Église grecque ou protestante.
La menace au lieu de l'action.
Combien vous vous trompez, Montesquieu ? Et à quel point ne méconnaissez-vous pas mon respect pour le trône pontifical? Le seul rôle que je veuille jouer, la seule mission qui m'appartienne à moi, souverain catholique, ce serait précisément d'être le défenseur de l'Église. Dans les temps actuels, vous le savez, le pouvoir temporel est gravement menacé, et par la haine religieuse et par l'ambition des pays nord de l'Italie. Eh bien, je dirais au Saint-Père, je vous soutiendrai contre tous, je vous sauverai, c'est mon devoir, c'est ma mission. Mais, du moins, ne m'attaquez pas. Soutenez-moi de votre influence morale. Serait-ce trop demander quand moi-même j'exposerai ma popularité en me portant pour défenseur du pouvoir temporel, complètement discrédité aujourd'hui, hélas, aux yeux de ce qu'on appelle la démocratie européenne? Ce péril ne m'arrêterait point. Non seulement je tiendrais en échec de la part des États voisins, toute entreprise contre la souveraineté du Saint-Siège, mais si par malheur il était attaqué, si le pape venait à être chassé des états pontificaux, comme cela s'est déjà vu, mes baïonnettes seules l'y ramèneraient et l'y retiendraient toujours, moi, durant.
En effet, ce serait un coup de maître, car si vous teniez à Rome une garnison perpétuelle, vous disposerez presque du Saint-Siège, comme s'il résidait dans quelque province de votre royaume.
Croyez-vous qu'après un tel service rendu à la papauté, elle refuserait de soutenir mon pouvoir, que le pape même, au besoin, refuserait de venir me sacrer dans ma capitale? De tels événements sont-ils sans exemple dans l'histoire?
Oui, tout se voit dans l'histoire. Mais enfin, si au lieu de trouver dans la chair de Saint-Pierre un Borgia ou un Dubois, comme vous paraissez y compter, vous aviez en face de vous un pape qui résista à vos intrigues et brava votre colère. Que feriez-vous?
Alors, il faudrait bien s'y résoudre. Sous prétexte de défendre le pouvoir temporel, je déterminerai sa chute.
Vous avez ce qu'on appelle du génie. J'ai dit que vous avez du génie. Il en faut vraiment d'une certaine sorte pour concevoir et exécuter tant de choses. Je comprends maintenant l'apologue du dieu Vishnu. Vous avez 100 bras comme l'idole indienne, et chacun de vos doigts touche un ressort. De même que vous touchez tout, pourrez-vous aussi tout voir?
Oui, car je ferai de la police une institution si vaste qu'au cœur de mon royaume, la moitié des hommes verra l'autre. Me permettez-vous quelques détails sur l'organisation de ma police?
Faites.
Je commencerai par créer un ministère de la police qui sera le plus important de mes ministères et qui centralisera, tant pour l'extérieur que pour l'intérieur, les nombreux services dont je doterai cette partie de mon administration.
Mais si vous faites cela, vos sujets verront immédiatement qu'ils sont enveloppés dans un effroyable réseau.
Si ce ministère déplaît, je l'abolirai. Je l'appellerai, si vous voulez, ministère d'État. J'organiserai d'ailleurs dans les autres ministères des services correspondants dont la plus grande partie sera fondue sans bruit dans ce que vous appelez aujourd'hui ministère de l'Intérieur et ministère des Affaires étrangères. Vous entendez parfaitement qu'ici je ne m'occupe point de diplomatie, mais uniquement des moyens propres à assurer ma sécurité contre les factions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Eh bien, croyez-le, sous ce rapport, je trouverai la plupart des monarques à peu près dans la même situation que moi, c'est-à-dire très disposés à seconder mes vues, qui consisteraient à créer des services de police internationale dans l'intérêt d'une sûreté réciproque. Si, comme je n'en doute guère, je parvenais à atteindre ce résultat, mais voici quelques-unes des formes sous lesquelles se produirait ma police à l'extérieur. Homme de plaisir et de bonne compagnie dans les cours étrangères, pour avoir l'œil sur les intrigues des princes et des prétendants exilés, révolutionnaires proscrits dont, à prix d'argent, je ne désespérais pas d'amener quelques-uns à me servir d'agents de transmission, à l'égard des menées de la démagogie ténébreuse, établissement de journaux politiques dans les grandes capitales, imprimeurs et libraires placés dans les mêmes conditions et secrètement subventionnés pour suivre de plus près par la presse le mouvement de la pensée.
Ce n'est plus contre les factions de votre royaume, c'est contre l'âme même de l'humanité que vous finirez par conspirer.
Bon, vous le savez, je ne m'effraie pas beaucoup des grands mots. Je veux que tout homme politique qui voudra aller cabaler à l'étranger puisse être observé, signalé de distance en distance, jusqu'à son retour dans mon royaume, où on l'incarcéra bel et bien pour qu'il ne soit pas en mesure de recommencer. Pour avoir mieux en main le fil des intrigues révolutionnaires, je rêve une combinaison qui serait, je crois, assez habile.
Et quoi donc, grand Dieu ?
Je voudrais avoir un prince de ma maison, assis sur les marches de mon trône, qui jouerait au mécontent. Sa mission consisterait à se poser en libéral, en détracteur de mon gouvernement, et à rallier ainsi, pour les observer de plus près, ceux qui, dans les rangs les plus élevés de mon royaume, pourraient faire un peu de démagogie. À cheval sur les intrigues intérieures et extérieures, le prince auquel je confierais cette mission ferait ainsi jouer un jeu de dupes à ceux qui ne seraient pas dans le secret de la comédie.
Quoi ? C'est à un prince de votre maison que vous confieriez des attributions que vous chassez vous-même dans la police ?
Et pourquoi non ? Je connais des princes régnants qui, dans l'exil, ont été attachés à la police secrète de certains cabinets.
Si je continue à vous écouter, Machiavel, c'est pour avoir le dernier mot de cette effroyable gageure.
Ne vous indignez pas, monsieur de Montesquieu. Dans l'esprit des lois, vous m'avez appelé grand homme.
Vous me le faites expier chèrement. C'est pour ma punition que je vous écoute. Passez le plus vite que vous pourrez sur tant de détails sinistres.
À l'intérieur, je suis obligé de rétablir le cabinet noir.
Rétablissez.
Vos meilleurs rois en faisaient usage. Il ne faut pas que le secret des lettres puisse servir à couvrir des complots.
C'est là ce qui vous fait trembler. Je le comprends.
Vous vous trompez, car il y aura des complots sous mon règne. Il faut qu'il y en ait.
Qu'est-ce encore ?
Il y aura peut-être des complots vrais, je n'en réponds pas. Mais à coup sûr, il y aura des complots simulés. À de certains moments, c'est peut-être un excellent moyen pour exciter la sympathie du peuple en faveur du prince, lorsque sa popularité décroît. En intimidant l'esprit public, on obtient au besoin, par là, les mesures de rigueur que l'on veut, ou l'on maintient celles qui existent. Les fausses conspirations, dont bien entendu il ne faut user qu'avec la plus grande mesure, ont encore un autre avantage. C'est qu'elles permettent de découvrir les complots réels en donnant lieu à des perquisitions qui conduisent à rechercher partout la trace de ce qu'on soupçonne. Rien n'est plus précieux que la vie du souverain. Il faut qu'elle soit environnée d'innombrables garanties, c'est-à-dire d'innombrables agents. Mais il est nécessaire en même temps que cette milice secrète soit assez habilement dissimulée pour que le souverain n'ait pas l'air d'avoir peur quand il se montre en public. On m'a dit qu'en Europe, les précautions à cet égard étaient tellement perfectionnées qu'un prince qui sort dans les rues pouvait avoir l'air d'un simple particulier qui se promène sans garde dans la foule alors qu'il est environné de 3 ou 1000 protecteurs. J'entends du reste que ma police soit parsemée dans tous les rangs de la société. Il n'y aura pas de conciliabule, pas de comité, pas de salon, pas de foyer intime où il ne se trouve une oreille pour recueillir ce qui se dit en tout lieu, à toute heure. Hélas, pour ceux qui ont manié le pouvoir, c'est un phénomène étonnant que la facilité avec laquelle les hommes se font les délateurs les uns des autres. Ce qui est plus étonnant encore, c'est la faculté d'observation et d'analyse qui se développe chez ceux qui font état de la police politique. Vous n'avez aucune idée de leurs ruses, de leurs déguisements, de leurs instincts, de la passion qu'ils apportent dans leurs recherches, de leur passion, de leur impénétrabilité. Il y a des hommes de tous les rangs qui font ce métier, comment dirais-je, par une sorte d'amour de l'art.
Ah, tirer le rideau.
Oui, car il y a là, dans les bas-fonds du pouvoir, des secrets qui terrifient le regard. Je vous épargne de plus sombres choses que vous n'avez pas entendues. Avec le système que j'organiserai, je serai si complètement renseigné que je pourrai tolérer même des agissements coupables, parce qu'à chaque minute du jour, j'aurai le pouvoir de les arrêter.
Les tolérer? Et pourquoi?
Parce que, dans les États européens, le monarque absolu ne doit pas indiscrètement user de la force, parce qu'il y a toujours, dans le fond de la société, des activités souterraines, sur lesquelles on ne peut rien quand elles ne se formulent pas. Parce qu'il faut éviter avec grand soin d'alarmer l'opinion sur la sécurité du pouvoir. Parce que les partis se contentent de murmures, de taquineries offensives, quand ils sont réduits à l'impuissance, et que prétendre désarmer jusqu'à leur mauvaise humeur serait une folie. On les entendra donc se plaindre, ça et là, dans les journaux, dans les livres. Ils essaieront des allusions contre le gouvernement, dans quelques discours, dans quelques plaidoyers. Ils feront, sous divers prétextes, quelques petites manifestations d'existence. Et tout cela sera bien timide, oh, je vous le jure, et le public, s'il en est informé, ne sera guère tenté que d'en rire. On me trouvera bien bon de supporter cela, alors je passerai pour trop débonnaire. Voilà pourquoi je tolérerai ce qui, bien entendu, me paraîtra pouvoir être sans aucun danger. Je ne veux pas même que l'on puisse dire que mon gouvernement est ombrageux.
Ce langage me rappelle que vous avez laissé une lacune, et une lacune fort grave dans vos décrets.
Laquelle ?
Vous n'avez pas touché à la liberté individuelle.
Ah, je n'y toucherai pas.
Le croyez-vous ? Si vous vous êtes réservé la faculté de tolérer, vous vous êtes principalement réservé le droit d'empêcher tout ce qui vous paraîtrait dangereux. Si l'intérêt de l'État, ou même un soin un peu pressant, exige qu'un homme soit arrêté, à la minute même dans votre royaume, comment pourra-t-on le faire s'il y a dans la législation quelques lois d'habeas corpus? Si l'arrestation individuelle est précédée de certaines formalités, de certaines garanties, pendant qu'on y procédera, le temps se passera.
Permettez, si je respecte la liberté individuelle, je ne m'interdis pas à cet égard quelques modifications utiles à l'organisation judiciaire.
Je le savais bien.
Oh, ne triomphez pas, ce sera la chose la plus simple du monde. Qui est-ce qui statue en général sur la liberté individuelle dans vos états parlementaires?
C'est un conseil de magistrats, dont le nombre et l'indépendance sont la garantie des justiciables.
C'est une organisation à coup sûr vicieuse, car comment voulez-vous qu'avec la lenteur des délibérations d'un conseil, la justice puisse avoir la rapidité d'appréhension nécessaire sur les malfaiteurs?
Quels malfaiteurs?
Je parle des gens qui commettent des meurtres, des vols, des crimes et des délits justiciables du droit commun. Il faut donner à cette juridiction l'unité d'action qui lui est nécessaire. Je remplace votre conseil par un magistrat unique, chargé de statuer sur l'arrestation des malfaiteurs.
Mais il ne s'agit pas ici de malfaiteurs. À l'aide de cette disposition, vous menacez la liberté de tous les citoyens. Faites au moins une distinction sur le titre de l'accusation.
C'est justement ce que je ne veux pas faire. Est-ce que celui qui entreprend quelque chose contre le gouvernement n'est pas autant et plus coupable que celui qui commet un crime ou un délit ordinaire? La passion ou la misère a tenu bien des fautes, mais qu'est-ce qui force les gens à s'occuper de politique? Aussi, je ne veux plus de distinction entre les délais dits de droit commun et les délits politiques. Où donc les gouvernements modernes ont-ils l'esprit d'élever des espèces de tribunes criminelles à leurs détracteurs? Dans mon royaume, le journaliste insolent sera confondu dans les prisons avec le simple larron et comparaîtra à côté de lui devant la juridiction correctionnelle. Le conspirateur s'assiera devant le jury criminel côte à côte avec le faussaire, avec le meurtrier. C'est là une excellente modification législative, remarquez-le, car l'opinion publique, en voyant traiter le conspirateur à l'égal du malfaiteur ordinaire, finira par confondre les deux genres dans le même mépris.
Vous ruinez la base même du sens moral. Mais que vous importe? Ce qui m'étonne, c'est que vous conserviez un jury criminel.
Dans les États centralisés comme le mien, ce sont les fonctionnaires publics qui désignent les membres du jury. En matière de simples délits politiques, mon ministre de la Justice pourra toujours, quand il le faudra, composer la chambre des juges appelés à en connaître.
Votre législation intérieure est irréprochable. Il est temps de passer à d'autres objets.